Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans, et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans À vous les Burgiens, deuxième édition confinée de votre émission d'actualité. Au programme, un point sur la situation de l'épidémie dans l'Ain avec l'Agence régionale de santé et la directrice de l'hôpital de Fléria. Un malade du Covid-19 nous explique aussi son quotidien. Ensuite, nous parlons du travail. Beaucoup restent chez eux et commencent à perdre patience. Un ingénieur, une lycéenne et un professeur des écoles parlent de leurs tâches confinées. Pensons aussi à ceux qui sont sur le terrain, au contact des gens et donc du virus. C'est le cas des postiers par exemple. Ils réduisent leur journée de travail pour limiter les contacts. Une factrice de Bourg-en-Bresse témoigne. Les agriculteurs, eux aussi, ont un rôle clé, nous nourrir, mais ils manquent de main-d'œuvre et sont parfois oubliés des consommateurs qui préfèrent les grandes surfaces. Heureusement, des initiatives sont lancées pour favoriser l'achat de produits locaux. Ce sera en fin d'émission.
Radio B.
La France entame sa troisième semaine de confinement. Il devait se terminer fin mars, il a été prolongé jusqu'au 15 avril pour l'instant. Une nouvelle attestation de déplacement qui comporte notamment l'heure de sortie est à remplir. Les sorties pour la course à pied sont plus encadrées, pas plus loin qu'un rayon d'un kilomètre autour du domicile et pour une durée d'une heure maximum. Dans l'Ain, près d'une soixantaine de personnes sont hospitalisées pour le Covid-19. On compte 6 décès dans les hôpitaux. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est plus de 2000 personnes touchées et plus de 200 décès. C'est l'Agence régionale de santé qui publie ces données tous les soirs, mais le mode de comptage a changé. Cécilia Haas, directrice de la communication à l'ARS, nous explique ce changement et nous fait le point sur la situation dans l'Ain. Bonjour Cécilia Haas.
Bonjour.
Vous êtes directrice de la communication à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que vous pouvez nous dire dans l'Ain comment ça se passe en ce moment? Est-ce que les services de santé sont surchargés? Est-ce que ça va encore?
Pour l'instant, et dans la grande majorité des services, les services d'hospitalisation et de réanimation ne sont pas surchargés. Alors il peut y avoir une activité beaucoup plus importante que d'habitude, surtout en cette période où on arrive en général à la fin de la grippe saisonnière. Mais aujourd'hui, les établissements font totalement face. Ils sont plutôt en attente justement d'une augmentation qui pourrait être plus importante. Ce que l'on a fait aussi récemment, c'est qu'on a demandé à tous les établissements qui sont autorisés à pratiquer de la réanimation, d'augmenter leur capacité de réanimation. Donc en fait, ils ont pu mettre des lits supplémentaires à disposition, des respirateurs artificiels à disposition, et grâce aussi au redéploiement des professionnels de santé, on a pu passer au niveau de la région de 550 lits à près de 900 lits de réanimation disponibles en capacitaire totale. Donc parmi ceux-ci, il y a des lits qui sont déjà occupés par des malades, que ce soit du Covid ou d'autres choses, mais en tout, on a pu vraiment pratiquement doubler la capacité. Donc on est quand même encore aujourd'hui, on va dire, dans une période où on est loin de la saturation, mais on sait que ça pourrait venir assez vite et donc on se tient prêt au maximum.
À un moment, on avait la comptabilisation des cas de Covid. Maintenant, ça s'arrête. Pourquoi ça s'arrête?
Alors c'est vrai qu'en tout début d'épidémie, la stratégie, elle était de pouvoir repérer le plus vite possible les cas confirmés de Covid pour pouvoir ensuite derrière établir les sujets contacts et puis limiter la transmission au maximum. Maintenant, on est en stade 3, c'est-à-dire que le virus circule complètement et on estime que ce n'est plus nécessaire et on n'est plus en capacité surtout de faire la recherche des sujets contacts. Donc le test n'est plus systématique, il est encore réalisé sur une partie de la population et notamment sur les personnes qui risquent de présenter une forme très grave de la maladie, sur les professionnels de santé qui présentent des symptômes, sur les femmes enceintes, sur les donneurs d'organes. Maintenant, ça représente une toute petite partie de la population. Donc, les tests sont quand même faits pour cette population-là, pour savoir un petit peu, justement, et prévenir une prise en charge et éviter une dégradation trop importante de leur état de santé. Mais la grande majorité des gens qui sont touchés par le Covid présentent des symptômes bénins. Ils ne sont pas pris en charge ou plus pris en charge à l'hôpital, mais par leur médecin traitant ou la médecine de ville. Ils sont invités à rester chez eux et ils ne sont pas testés. Donc en fait, aujourd'hui, on arrête de donner les chiffres parce qu'ils ne représentent plus la réalité de ce qui se passe sur le terrain au niveau de l'épidémie.
Et donc, quels sont les chiffres qui vont permettre au gouvernement de dire « voilà, l'épidémie se calme » ?
Alors, c'est une bonne question. En fait, on rentre un petit peu dans le même suivi que la grippe saisonnière. Quand vous avez tout un tas de personnes qui présentent des syndromes grippaux, chaque année, elles vont consulter leur médecin. Et les médecins, en fait, il y a tout un réseau de médecins qui s'appelle le réseau Sentinelle, et qui est le même là qui suit le Covid-19, est un réseau de médecins qui remonte régulièrement les consultations qui sont réalisées et qui sont des consultations liées à des syndromes de Covid. Et donc, ces consultations permettent aussi de voir le nombre de personnes qui sont potentiellement touchées. De la même manière, dans les EHPAD, il est demandé aux établissements de nous faire part des premiers cas de Covid qu'ils ont eus, et ensuite, à la fin, de nous faire part des personnes qui ont été touchées par le Covid-19 durant toute la période de l'épidémie. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut voir qu'il y a un pic épidémique qui est atteint. Le pic épidémique, il est atteint quand plusieurs jours de suite, il y a une baisse du nombre de cas. Donc ça, on le verra pas tout de suite, hein. On le verra dans sans doute plusieurs semaines. Et le suivi, il est multiple, en fait, du coup. Il est par ces remontées des EHPAD, par le réseau Sentinelle, par le réseau aussi de SOS Médecins, qui nous font des signalements, et par les prises en charge hospitalières à l'hôpital des cas plus graves. Et en fait, avec tout cet ensemble de données, on arrive à compiler ces signalements, à avoir l'évolution de l'épidémie, c'est exactement comme en période de grippe, et par contre, on peut être capable de dire que l'épidémie baisse en intensité à partir du moment où on a un nombre de cas et de signalements qui diminuent. Donc on ne peut pas le voir tout de suite, ça demande un certain délai de latence, et en général c'est 10-15 jours après le début de la descente, si vous voulez, qu'on peut confirmer qu'on est en phase descendante.
Merci Cécilia, je rappelle que vous êtes directrice de la communication à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
Merci beaucoup.
Au centre hospitalier de Fléria, les équipes soignantes sont déjà sur le pont depuis un mois. La réorganisation des services a été mise en place pour faire face au possible afflux des malades du virus. Frédérique Labro-Goubi, la directrice du centre hospitalier, se veut rassurante, même si elle ne souhaite pas communiquer les chiffres liés au Covid-19. Elle nous parle de l'atmosphère au centre hospitalier.
Alors l'ambiance, elle est vraiment tournée vers la capacité de s'adapter, d'adapter nos organisations pour prendre en charge au mieux les patients du Covid-19 et nos patients standards. Donc il y a une très grande concentration. On peut pas le cacher, mais c'est propre à tous les établissements de santé. Il y a en même temps forcément une inquiétude sur l'incertitude de savoir quelle va être l'ampleur, le volume de personnes qu'on va être amené à prendre en charge. Donc ça, c'est un deuxième point. Et en même temps, le troisième sentiment d'ambiance, c'est qu'il y a aussi une très grande solidarité entre les services et entre les acteurs pour faire que le centre hospitalier soit capable de répondre à cette situation et à tous ses besoins.
Justement, par rapport à votre deuxième point, on entend des personnels soignants des régions les plus touchées, le Grand Est ou l'Île-de-France, expliquer qu'il manque de moyens. Est-ce qu'on est prêt à Bourg-en-Bresse à accueillir cette vague de malades qui devrait arriver peut-être dans les jours prochains ?
Alors, on prend déjà en charge un des patients de Covid-19 dans l'établissement, à la fois dans nos services d'infectiologie qu'on a redimensionnés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons normalement un secteur d'infectiologie dans l'établissement. D'ores et déjà, nous avons 3 secteurs d'infectiologie, donc on a plus de 40 lits pour pouvoir accueillir des patients médicaux du Covid-19. Et puis, on a revu aussi toute l'organisation de la réanimation, qui est passé de 10 à 20 lits de réanimation, lundi à 24. Donc on essaye de s'adapter. On n'est pas ni plus ni moins près que les établissements d'Île-de-France ou de Grand Est. Hein, les établissements hospitaliers ont tous les mêmes contraintes et les mêmes organisations. On a essayé, parce qu'on a été moins touchés sous la forme pique pour l'instant, je dis bien pour l'instant, hein, que les hôpitaux du Grand Est, on a essayé d'anticiper au maximum les éléments, mais il y a une part d'inconnu qui est extrêmement importante.
concrètement, est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs comment vous allez accueillir, comment vous accueillez déjà les patients malades du Covid?
En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs typologies de patients. Il y a des patients qui peuvent avoir effectivement le Covid, mais des patients qui peuvent rentrer chez eux, en fait, en pratiquant les démarches de confinement et en étant suivis après à distance par nos infectiologues. Le deuxième cas, c'est effectivement des patients qui peuvent se présenter aux urgences pour des problématiques respiratoires. Et au cours de cette prise en charge, on va constater qu'ils ont besoin d'une hospitalisation. Donc à ce moment-là, les patients pourront être hospitalisés à Feria sur des secteurs spécifiques. Donc je parlais particulièrement des secteurs d'infectiologie. Si par contre la gravité du patient est plus importante, la dégradation de son état, hein, il peut être soit amené de l'extérieur par un SMUR dédié en réanimation et être pris en charge aussi en réanimation, soit un patient qui est en médecine et ça peut arriver qui, dont l'état de santé se dégrade et qui pourrait être adressé aussi en réanimation. Donc ça, c'est les trois axes et les portes d'entrée par lesquelles peuvent être pris en charge des patients Covid, et ils peuvent être accompagnés, donc du coup, soit à domicile, en médecine, en réanimation, et puis par la suite, si leur séjour en médecine voit la consolidation de leur état de santé, ils pourront aussi être pris en charge dans des soins de suite Covid qu'on a mis en place, notamment en relation avec les Arbelles, mais aussi à Hauteville, à Pont-de-Vaux, et à l'Hôtel Dieu, où on est en train d'installer une structure dédiée aussi en post-hospitalisation de court séjour. L'évolution de l'offre, elle est relativement importante. C'est ce que je disais tout à l'heure, on s'adapte en fait. Hein.
Et vous avez lancé un appel à des dons de masques et après de blouses. Est-ce que c'est parce que vous manquez de matériel?
Alors, cette situation-là, elle a quand même évolué de façon tout à fait favorable depuis notre appel. Moi, je tiens très sincèrement, voilà, au nom de tous les hospitaliers, à remercier l'ensemble de la population, les collectivités, les entreprises, tous les acteurs aussi individuels qui ont proposé des choses à l'établissement, à la fois effectivement du don de matériel, mais il y a eu aussi effectivement des repas proposés par des restaurateurs. Enfin, voilà, la multiplicité des officiels et anonymes qui ont effectivement fait preuve d'une très grande solidarité. Aujourd'hui, les établissements de santé, ça a été le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, hein, ont reçu et reçoivent maintenant régulièrement des dotations de l'État, notamment sur les masques. Donc je dirais que, non pas de façon définitive, hein, parce que je n'ai pas la visibilité à moyen terme des livraisons, mais pour les quelques semaines à venir, nous avons un peu éloigné le spectre de l'absence d'équipements de protection nécessaires. C'est vrai pour les masques et ce qu'on appelle les masques chirurgicaux et FFP2. Par contre, c'est moins vrai pour d'autres pénuries qui apparaissent. Vous avez parlé des surblouses. Il peut y avoir aussi des problématiques aussi simples que des tubes de prélèvement. On voit bien qu'au fur et à mesure du temps, comme nous ne sommes pas livrés dans des conditions régulières en fait par nos fournisseurs, eh ben sur certains pans de produits, on peut rencontrer des difficultés.
Frédéric Labrogoubi, directrice au centre hospitalier de Fléria, au micro d'Élodie Gadiolé. Dimanche 29 mars, la région Auvergne-Rhône-Alpes a réceptionné plus de 3 millions de masques chirurgicaux et FFP2. Ils vont être répartis dans les établissements de santé dans la semaine. Les étudiants en école d'infirmiers de Bourg-en-Bresse devraient aussi être mobilisés dans les jours à venir pour accompagner les soins auprès des personnes âgées. On rappelle que l'aide médicale d'urgence du SAMU est toujours active pour d'autres problèmes que le Covid-19. Vous pouvez également appeler votre médecin pour toute demande. Si vous avez une urgence dentaire, appelez votre dentiste et surtout ne pas appeler le 15. C'est l'Ordre national des chirurgiens dentistes qui vous le rappelle. Et les malades du Covid sont loin d'être tous pris en charge par les hôpitaux. Si le patient n'a pas de problème respiratoire, il reste chez lui. Et c'est le cas de ce Burgien qui a contracté le virus il y a plus d'une semaine.
Pierre-André, vous êtes comme tous les Français confiné chez vous, mais pour votre part avec des symptômes, lesquels ?
J'ai des symptômes qui sont ceux du coronavirus, puisque j'ai de la fièvre depuis plus d'une semaine. Je tousse, et puis en plus de ça, depuis maintenant une semaine, j'ai perdu le goût et l'odorat. ce qui confirme le Covid-19.
Est-ce que vous avez été testé pour le Covid-19, du coup ?
Alors, mon médecin n'a pas proposé de test, en fait. Je pense que je ne fais pas partie de personnes à risque. Donc, il me semble, ce que j'ai compris, c'est que les personnes testées sont des personnes qui sont des personnes fragiles et, ou qui passent éventuellement également par l'hôpital, ce qui n'a pas été mon cas.
Et qu'est-ce qu'il vous a dit, le médecin ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez eu au téléphone ? Comment ça s'est passé ?
Alors, en fait, moi, ma situation, elle a commencé à se dégrader en début de semaine passée. Donc, c'était mardi de la semaine dernière. Et mercredi, j'ai commencé à vraiment avoir de la fièvre et j'ai appelé mon médecin qui m'a appris le lendemain matin. Et il m'a appris en consultation, mais dans une situation de sécurité importante, puisqu'on m'a fait prendre un masque. Lui-même avait un masque. Il n'y a pas eu de contact physique, si ce n'est la consultation, bien entendu. Et donc là, vu l'auscultation qu'il m'a faite, il a tout de suite... il est parti sur le soin de m'arrêter pour 14 jours, puisque je suis arrêté jusqu'au 3 avril. Là.
Qu'est-ce qu'il vous a recommandé ?
Alors, il m'a recommandé de ne pas sortir du tout de la maison. Ce que j'ai fait depuis plus d'une semaine, puisque là... depuis jeudi, où je suis allé le voir, je n'ai pas remis les pieds dehors pour quoi que ce soit, même pas pour une course. Donc, voilà.
Et est-ce qu'il y a un traitement à suivre ?
Alors, le seul traitement qu'il y a actuellement, c'est le Doliprane pour la fièvre, parce que la fièvre, c'est vraiment quelque chose qui me met à plat. Mais vraiment à plat, c'est-à-dire que là, moi, j'ai plus du tout d'énergie, je suis très, très fatigué. Donc, s'il n'y a pas de Doliprane, je pense que ça sera encore plus terrible. Mais il n'y a pas d'autres traitements, et surtout pas... Enfin, moi, on m'a fortement déconseillé de prendre des anti-inflammatoires, quoi.
Est-ce que vous avez une idée de comment ou où vous auriez contracté le virus ?
Alors, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Ce que je peux simplement dire, c'est que le week-end, juste qui a précédé le confinement, moi, j'ai été dans une fête de famille. Donc, pas dans l'Ain, j'étais en Savoie. Pas en Haute-Savoie, mais bien en Savoie. Et en fait, il se trouve que quasiment toutes les personnes qui étaient cette soirée-là présentes sont malades actuellement, quoi.
Et depuis le début, comment est-ce que ça a évolué ? Est-ce que vous avez l'impression que ça va un peu mieux ? On a entendu dire que entre le sixième et le huitième jour, c'était la partie la plus difficile.
Moi, je ne vois pas vraiment d'évolution depuis une semaine. Mon médecin, effectivement, a été attentif à ce que je le rappelle lundi. Et effectivement, il y a une période un peu difficile, un petit peu délicate. C'est une période de 6-8 jours où il peut y avoir des risques de troubles respiratoires importants. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vis-à-vis duquel bon, il m'a demandé une grande vigilance. Donc si j'ai quoi que ce soit, il m'a demandé de le rappeler, bien entendu. Et puis bon, ça c'est quelque chose qui met beaucoup de stress. Ça rajoute du stress. Déjà beaucoup de fatigue et puis beaucoup de gêne par ailleurs.
Est-ce que vous pouvez décrire un peu comment vous vous sentez, ce que vous ressentez ?
Alors, je me ressens très très fatigué. Beaucoup de fatigue en permanence. Des douleurs qui sont liées surtout pour moi en ce qui me concerne à tout ce qui est de l'ordre des courbatures liées à la fièvre. Je peux avoir des maux de tête également. Après, je dirais que ça c'est plus subtil, c'est tout ce que je ressens, on va dire, par la bouche, par l'odorat, puisque perdre l'odorat et le goût, c'est très très déroutant en fait, c'est très déstabilisant. Je dirais que ça impacte aussi notre morale, parce que les petits plaisirs qu'on a encore de pouvoir manger un peu, déjà c'est plus un plaisir de manger parce qu'il faut se forcer un petit peu, quoi. Et puis, plus avoir de goût, quoi que ce soit, c'est un peu... ça sabre encore plus, quoi.
On a pas mal parlé de la toux dans les symptômes. Est-ce que vous toussez beaucoup ?
Oui, alors c'est très, très fluctuant. Ce qui est assez déroutant, j'ai l'impression, en parlant avec les personnes qui sont touchées comme moi, c'est que d'un jour à l'autre, y a des fluctuations. Là, par exemple, je vais rappeler mon frère juste après, qui allait mieux depuis 3 jours, et visiblement, j'ai eu une information comme quoi il allait pas bien aujourd'hui. Donc, on croit des fois qu'on est sorti d'affaire, et puis, on retombe tout de suite après. Donc, c'est très, très variable d'un jour à l'autre. Et là, tout à l'heure, j'avais peur avant que vous appeliez de me mettre à tousser, parce que des fois, je prends des quintes de toux, je peux plus m'arrêter. Et puis, après, ça s'arrête. Donc, c'est très, très troublant, en fait. J'ai pas d'essoufflement, je suis pas gêné au niveau des pulmonaires. Par contre, comme je tousse, je peux pas je peux pas respirer fortement. C'est surtout à ce niveau-là que c'est pénible. On est tout bizarre, on est dans une autre dimension en fait.
Là, on l'a compris, hein, vous êtes confiné comme nous tous. Vous êtes seul en famille ?
Non, heureusement, moi j'ai la chance de pas être tout seul. J'ai ma compagne qui malheureusement est malade également, qui a pas du tout les mêmes symptômes que moi. Curieusement, elle n'a pas de fièvre. Mais par contre, elle a des douleurs très 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 fortes dans tout le corps et beaucoup de maux de dos. Et elle a aussi des pressions au niveau de la cage thoracique, donc c'est un peu différent. Elle a perdu le goût, elle a l'odorat également. Et elle a beaucoup de nausées, beaucoup d'envie de vomir. Voilà. Et puis j'ai une de mes filles qui est là, qui est revenue pendant le confinement parce qu'elle habite en ville. Et là, elle a préféré venir chez moi à la campagne. Ça, c'est une chance également. Et elle, pour l'instant, n'a développé aucun signe par rapport à ça.
Et du coup, comment ça s'organise pour elle ? Alors elle, si elle n'est pas malade, j'imagine qu'il y a des procédures à respecter dans la maison ?
Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, en ce qui me concerne, mon médecin ne m'a pas donné de consigne particulière. Je sais que le médecin de ma compagne l'a dit, mais il aurait fallu que chacun soit confiné dans une pièce différente. Bon, ceci étant, je veux dire, si... maintenant, oui, on pourrait le faire, mais le confinement, il a fallu le faire dès le départ, c'est-à-dire dès le début de la semaine dernière. Maintenant, je vois pas trop vraiment le sens que ça aurait. Ceci étant, on vit chacun, moi j'ai une maison assez grande, donc j'ai la chance d'avoir de l'espace. On a chacun, on est souvent dans des pièces séparées. On se retrouve essentiellement sur les temps du repas. Voilà, et on garde nos distances pour les repas. Quoi.
Merci à vous, et puis bon rétablissement.
Ben, je vous remercie, et puis on attend l'amélioration qui tarde à venir.
Pour rappel, si vous avez des courbatures, de la toux, de la fièvre et de la fatigue ou une partie de ces symptômes, vous pouvez appeler un médecin. Si vous avez aussi des difficultés respiratoires, appelez le 15. Dans tous les cas, restez chez vous. Et pour avoir des informations ou un soutien psychologique, c'est au 0 800 130 000.
Radio B. Radio B.
Avec le confinement qui se prolonge, les entreprises s'adaptent pour continuer à assurer un service minimum s'il est nécessaire. C'est le cas de La Poste qui a décidé de maintenir son activité malgré les risques encourus. Mais cette semaine, les factrices et les facteurs travailleront seulement 3 jours, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Une décision pour préserver les employés et qui est possible grâce à la baisse importante des courriers et colis envoyés. On écoute une factrice de lin qui trouve important de poursuivre son travail. Bonjour Joël, vous êtes factrice à Bourg-en-Bresse.
Bonjour.
Comment vous travaillez en ce moment ? Comment ça se passe ?
Alors c'est très très calme, les rues sont désertes, ou presque, hein, et tant mieux. On a beaucoup moins de travail. Après, au niveau de notre employeur, on a eu du gel hydroalcoolique, donc on peut se passer du gel régulièrement, ce qu'on fait tous. Hein. Et c'est bizarre quoi, de travailler dans une ville aux trois quarts morte, c'est vraiment bizarre.
3 jours par semaine, c'est parce qu'il y a beaucoup moins de courriers à livrer ?
Ah oui, nettement, on a des statistiques qui sont établies. Lundi, on était à 48% du taux qu'on aurait dû avoir. Et mardi, on était à 52%. Donc c'est ridicule parce que déjà, les lundis et mardis sont des journées qui sont assez légères pour nous, pour permettre à mes collègues qui font la publicité non adressée de la distribuer. Donc c'était vraiment trois fois rien. Quoi. Je veux dire, moi, j'ai même pas eu un seul recommandé dans les 2 premiers jours de la semaine, c'est pour dire. Quoi. Alors que d'habitude, j'en ai entre 25 et 30. Quoi.
Pendant votre tournée, vous êtes en contact avec des gens ?
Alors, dans la rue, j'en vois encore certains qui font discussion, qui se promènent. Oui, j'en vois encore un petit peu. J'essaye de leur dire que c'est pas une bonne idée, mais bon, je crois qu'il y aura toujours des irréductibles. Hein, c'est malheureusement le cas. Et puis, oui, moi, je prends contact avec les personnes que je connais sur ma tournée qui sont fragiles par l'intermédiaire des interphones pour prendre des nouvelles et savoir si elles ont besoin de quelque chose. Il y en a beaucoup qui se mettent au balcon, en fait, parce qu'ils savent à peu près quelle heure je passe. Et qui me parle par les balcons ou par les fenêtres. Les gens sont attentifs et reconnaissants quand même au travail que nous on fait en tant que postiers. Ils sont conscients qu'on prend des risques aussi, nous, en sortant. Et du coup, moi, je trouve qu'on a beaucoup de reconnaissance et puis d'encouragement.
Est-ce que vous avez eu des consignes spécifiques pour livrer le courrier ?
Oui, on ne doit pas approcher les personnes qui sont reconnues fragiles. Et au niveau des recommandés, on doit demander d'abord au client s'il souhaite prendre le recommandé. Et ensuite, nous, on lui demande s'il veut bien qu'on signe à sa place. et on a un code pour signer les recommandés à la place du client pour éviter tout contact, justement. Et moi, j'encourage mes clients à laisser le courrier dans la boîte aux lettres pendant quelques temps pour, entre guillemets, en espérant qu'il se décontamine tout seul au cas où il le serait, quoi.
Vous êtes équipé en gel, en masque ?
Alors, masque, non, parce que la Poste ne nous en a pas donné. Elle a préféré les donner à l'hôpital de Flériat, et moi, ça me paraît à peu près normal. Et en gel, oui, on a tous eu notre flacon de gel. Après, pour mes collègues des colis, enfin qui transportent les colis, on leur a donné en plus de l'eau dans un jerrycan avec du savon et du papier pour qu'ils puissent, en cours de route, se laver les mains entre deux colis. Parce que le gel hydroalcoolique, ça abîme les mains quand même. Hein. Donc, en permanence, se mettre du gel, moi, je vois, je l'ai fait un petit peu trop hier. J'ai les mains qui sont toutes fraîches, toutes sèches.
Et est-ce que vous avez quand même un peu peur d'aller travailler, sachant que le virus est autour de nous ?
Alors, oui et non. Oui, parce que moi, j'ai pas envie de le ramener chez moi, donc j'ai pris d'autres initiatives pour pas le ramener chez moi, parce que chez moi, j'ai quand même mon mari, ma fille et mon beau-père qui est fragile. Non, parce que de toute façon, moi, je suis fonctionnaire, j'ai signé pour ça et j'assure ma mission de service public, donc je suis peut-être un petit peu bête à ce niveau-là, mais... Moi, je trouve que ça me permet aussi de maintenir un lien avec les gens que je connais qui avaient l'habitude de voir que le facteur.
Et à titre personnel, comment vous protégez ?
Quand je rentre, je laisse mes chaussures dehors déjà, parce que j'habite dans un immeuble, donc je les laisse sur le pas de la porte. Je mets tous mes vêtements que j'ai mis à la poste dans un grand sac de course que je laisse éloigné de ma famille. Et puis je rentre et je prends une douche quoi directement. Puisque le savon enlève le virus, moi je prends une douche directement en arrivant.
Merci beaucoup Joëlle. Je rappelle que vous êtes factrice à Bourg-en-Bresse.
Merci à vous, belle journée.
Les employés de la Poste, des grandes surfaces, les transporteurs, les soignants notamment, tous les jours ils sortent pour travailler et prennent des risques en étant en contact avec d'autres personnes. Pour d'autres métiers où il n'est pas nécessaire de se déplacer, les salariés sont en télétravail. Répondre aux mails dans son salon, prendre ses appels en pyjama, tout cela est maintenant possible. Pauline Bussy a interrogé un télétravailleur après 2 semaines de confinement.
Luc Maugenet est responsable de production et logistique dans une petite entreprise du secteur secondaire. Cette dernière n'a pas fermé pendant cette période de crise ou pas encore. Pour le moment, il travaille depuis chez lui.
Bonjour. Toutes mes journées commencent comme d'habitude hors confinement. Je me lève, je me prépare. Là, exceptionnellement, je suis un peu à l'actualité en prenant mon petit déjeuner. Et puis après, ma journée de télétravail démarre. Je m'installe sur ma table à manger avec mon ordinateur et je fais tout ce que j'ai à faire normalement comme si j'étais au bureau. Allô, ça va. Ouais, je te disais juste que tout ce qui n'est pas là, ils vont nous refiler les demandes clients.
Qu'est-ce qui change le plus quand on est en télétravail et pas au bureau ?
Ce qui change le plus, ça serait de ne pas voir les collègues. On est en contact avec eux, mais on ne les voit pas physiquement, on a moins d'interactions, donc forcément, je dirais que c'est ce qui change le plus.
Alors, racontez-nous comment vous vous organisez ? Comment vous êtes en lien avec vos collègues, votre hiérarchie ?
On a mis en place des réunions un peu exceptionnelles 2 fois par semaine pour faire justement un peu le point sur la situation, le télétravail, est-ce que ça se passe bien pour tout le monde ? Voilà, c'est principalement comme ça. Après, on est une start-up, on utilise déjà assez bien tous les outils informatiques. On a un chat, on fait des visioconf, on se téléphone... voilà, on a tout ce qu'il faut pour travailler et communiquer comme si on était au bureau.
Donc c'est pas un obstacle d'être à distance ?
C'est pas un obstacle, non, pas du tout.
Ça vous arrive de devoir vous déplacer dans le cadre de votre travail malgré le confinement ?
Normalement non, mais la semaine passée j'ai dû me déplacer 1 fois exceptionnellement pour assurer la relève, pour expédier des produits, parce que les personnes en charge de l'expédition l'établissement est fermé et ils ont exceptionnellement ouvert leurs portes pour que je puisse expédier les produits et j'ai dû me rendre sur place pour préparer l'expédition et faire que ça se fasse.
Vous traitez avec des clients internationaux, n'est-ce pas ?
Hi Jordan, how are you doing ? Yeah, we talked about it, but internally we are not sure it's the good option yet, and we are still waiting for some news.
Comment ça se passe avec eux en ce moment?
C'est un peu comme d'habitude, il faut juste qu'on anticipe un peu la suite et la reprise, comment ça se passera. Il faut faire des estimations, faut réfléchir à tous les impacts que peuvent avoir le confinement des différents pays. Est-ce que les différents fournisseurs travaillent ou pas? Différents sous-traitants, est-ce que le transport va pouvoir se faire entre telle et telle entité? Il y a vraiment plein de scénarios possibles et il faut qu'on les évalue et qu'on réfléchisse vraiment à quels sont les impacts, les risques et les solutions qu'on peut apporter ou anticiper pour la reprise quand tout ira mieux.
Vous allez pouvoir continuer à travailler de cette manière-là longtemps? Vous êtes en lien avec d'autres secteurs impactés?
C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec l'hôtellerie, c'est quand même nos principaux clients. Et vu qu'ils sont fortement impactés, on l'est directement aussi. Donc il y a peu de chances qu'on puisse continuer notre activité, même en télétravail, encore longtemps. Et on va devoir sûrement faire appel à du chômage technique à un moment donné.
Donc revenons au télétravail. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'occasionnel, qui doit rester occasionnel ?
Je pense que c'est quelque chose d'occasionnel qui doit rester occasionnel, mais de façon plus pérenne. Pas forcément qu'en cas de crise, quoi, mais vraiment que ça puisse être un outil utilisé chaque semaine si besoin.
C'est-à-dire, quel est votre regard par rapport au télétravail ?
Je pense que le télétravail, c'est vraiment un outil à activer comme un autre. Par exemple, il y a des tâches pour lesquelles je suis bien plus efficace à la maison sans sollicitation au bureau, par exemple, et d'autres tâches où je vais être plus efficace au bureau. Donc, je pense que c'est vraiment un outil à activer selon notre besoin et au jour le jour.
Vous y trouvez des avantages au télétravail? En ce moment, vous vous trouvez plutôt chanceux?
Oui, je me trouve chanceux parce que je peux travailler tout en étant confiné, sans prendre de risques vis-à-vis de la situation actuelle, et notamment vis-à-vis d'autres personnes qui, eux, sont obligées d'aller travailler. Donc, clairement, je suis chanceux et c'est un avantage, en effet, d'être en télétravail et de pouvoir continuer à travailler normalement, quoi.
En temps normal, qu'est-ce qu'elle en pense, votre entreprise du télétravail?
En temps normal, le télétravail est déjà assez accepté dans mon entreprise. J'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup, surtout en période de grève SNCF, vu que je prends le train pour aller au travail. Après, ça dépend aussi des postes. Il y a des gens qui, par exemple, doivent être disponibles pour répondre aux clients quand ils appellent au bureau. Pour eux, c'est un peu moins facile de faire du télétravail, même si au final, là, dans cette période, on le fait. Donc ça viendra peut-être plus facile pour eux par la suite. Après, pour ce qui me concerne, moi, c'était déjà le cas avant et l'entreprise l'accepte très bien.
Et pour finir, pensez-vous que cette expérience, si on peut dire, va faire évoluer les mentalités par rapport au travail chez soi?
Bah oui, je pense. Je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui étaient assez frileuses au télétravail pour leurs employés. Maintenant qu'elles y sont confrontées et potentiellement un peu forcées, ça va peut-être les aider à le mettre en place plus facilement pour la suite. Donc ça va peut-être faire un peu changer les mentalités des managers et des autres responsables pour que chacun puisse accéder au télétravail plus facilement. Et d'autant plus qu'il y a quand même pas mal, on voit quand même dans les médias, pas mal de preuves de l'impact bénéfique du télétravail sur le trafic routier, la pollution. Donc voilà, je pense que si on veut que la société aille vers une société plus équilibrée, le télétravail est une des clés à actionner assez facilement. Donc espérons que ça puisse faire changer les mentalités. Ok, très bien. Bonne fin de journée. Ciao. On se fait une pause ?
Entre deux mails, Luc et ses collègues ont l'habitude de faire des pauses autour d'un baby-foot. À la maison, pas question d'oublier ses pauses. La table du salon a donc été transformée en table de ping-pong. Luc Mangenet, salarié en télétravail au micro de Pauline Bussy. Apprendre depuis chez soi, les élèves y sont contraints, de l'école primaire à l'université. Et si les cours pourraient reprendre début mai, comme l'avait annoncé le ministre de l'Éducation nationale, il se peut aussi que la rentrée soit encore dans plusieurs mois.
En attendant, pas le choix, il faut faire avec les moyens du bord pour ne pas prendre trop de retard. Marie-Lou est lycéenne à Bourg-en-Bresse, elle nous explique les difficultés de cette école à la maison qui semble n'en avoir que le nom. Marie-Lou est lycéenne à Bourg-en-Bresse, en classe de première, et depuis 2 semaines déjà, elle suit ses cours à la maison, loin de ses camarades et de ses professeurs. Alors comment se passe ton quotidien en semaine ?
J'essaye de respecter un peu mon emploi du temps et de faire comme si j'avais cours, ce qui est quand même assez difficile. Par exemple, aujourd'hui, j'avais cours de maths, d'SVT, de géopolitique et d'anglais. Et donc, j'ai essayé de respecter les horaires, de faire 1 heure ou 2 heures de chaque. Après, moi, je suis quelqu'un qui bosse mieux le matin, donc je me lève pour être prête à bosser à 8 heures. Et il y a des jours où j'arrive à bosser jusqu'à 16-18 heures et d'autres où c'est un peu plus compliqué et je vais m'arrêter à 12h30, 2h quoi. Après, si j'y arrive pas, je me suis fait un autre planning en disant il faut au moins que je travaille tous les jours de 8h à 12h30 et après je peux faire autre chose l'après-midi, comme du sport ou de l'accordéon. Mais il faut au moins que je travaille tous les matins pour ne pas prendre trop de retard.
Comment se présentent les cours ?
Alors pour la physique-chimie, j'ai mon professeur qui va nous appeler en FaceTime, ça fait 2 fois qu'elle fait ça. Et donc du coup, le cours est à peu près le même malgré les bugs, le fait qu'on travaille via un écran. Mais en physique-chimie, c'est la seule personne qui fait ça. Sinon, tout le reste de mes cours, ils sont envoyés par mail ou via l'ENT, avec des documents joints, avec les explications, les devoirs à faire, etc. Donc on télécharge les pièces jointes, et puis ensuite, on travaille dans notre coin, à notre rythme.
Est-ce que tu communiques avec tes professeurs ?
Je communique avec mes professeurs via mail, justement. Ça m'est arrivé de ne pas comprendre ou d'être en difficulté par rapport à des questions. J'ai envoyé un mail à ma prof, par exemple, de français ou de maths pour leur dire, ça, je comprends pas, etc., comment ça se fait. Et donc, ils m'ont répondu, ils m'ont répondu par mail. Et c'est compliqué d'expliquer et de comprendre quand on n'a pas une personne en face de soi. Mais on peut quand même communiquer avec eux.
Comment es-tu évaluée ?
Il y a des choses qu'on doit rendre. Donc j'avais une dissertation à faire, donc je l'ai faite et j'ai dû l'envoyer. Donc je pense qu'on va être évalué sur des choses qu'on va rendre, donc envoyer. Après, on ne peut pas faire des évaluations à la maison. Je vois difficilement comment on pourrait faire.
Tu sais si tu vas passer des examens quand le confinement sera terminé ?
Alors moi, cette année, j'ai le bac de français, plus les E3C, plus le bac de géopolitique. Et pour l'instant, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on nous a envoyé un mail en disant que ça c'était pas annulé forcément, mais c'était peut-être reporté. Donc on nous a parlé de passer nos épreuves en septembre, ce qui me paraît compliqué et puis totalement infaisable parce que ça veut dire que pendant 2 mois on va devoir retravailler et tout sans les professeurs, ça me paraît très compliqué. Mais pour l'instant on nous a parlé de ça mais on n'a pas plus d'infos. Ce qui est sûr c'est que c'est reporté apparemment et que déjà faudra voir la durée du confinement, on ne sait pas jusqu'à quand on va être coincé chez nous.
Est-ce que le lycée t'y prépare ?
Je reçois pas beaucoup d'infos du lycée. Mais juste, on a cette info pour les épreuves et l'ENT, là où nos mails sont envoyés, du lycée à chez nous, est tout le temps saturé parce qu'il y a trop de monde dessus. Et donc, c'est très compliqué d'y aller. Donc, c'est pour ça qu'on a demandé aux professeurs de nous envoyer par mail parce que moi, par exemple, j'ai pas forcément beaucoup de réseau où j'habite. Et donc, c'est très compliqué que ce soit le FaceTime ou que ce soit d'aller à l'ENT sur l'ENT quand c'est saturé. Pour répondre à la question si le lycée m'y prépare, j'ai pas forcément l'impression qu'il m'y prépare, mais je sais pas en même temps ce qu'il pourrait faire, parce que je pense que tout le monde est démuni et personne ne sait quoi faire.
Ces cours à la maison, tu trouves que c'est quand même efficace ?
Je pourrais pas dire efficace, en fait, parce que je pense que c'est nécessaire. On va pas, à cause d'un virus, être en vacances, et pour moi, ceux qui se croient en vacances, c'est vraiment... qu'ils n'ont rien compris, mais je pourrais pas dire efficace parce que c'est très compliqué On a tous les profs qui nous envoient tout en même temps et qui nous demandent de renvoyer, de faire les choses vite. Je pense qu'ils sont aussi démunis que nous. Alors, les cours à la maison, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas tout arrêter comme ça. Mais je ne sais pas la manière la plus efficace. Je ne sais pas s'il en existe une de très efficace. Mais peut-être les FaceTime, où à ce moment-là, on peut poser directement nos questions aux profs. Mais il y en a qui ne savent pas faire ou ne veulent pas. Je dirais nécessaire, mais pour moi, pas si efficace que ça.
Quelles sont les difficultés quand on travaille à la maison ?
La grosse difficulté, c'est qu'on est tout seul. Même si on a nos parents, ils comprennent pas forcément nos cours ou ils ont beau nous aider, des fois, c'est compliqué. Ils s'en souviennent plus ou ils ont pas étudié les mêmes choses, voilà. Les difficultés sont, moi, je trouve énormes, en fait, parce qu'on nous envoie les cours, mais on n'a pas l'explication. Et moi, c'est vraiment ce qui me manque, parce que il y a des cours comme le français, quand je suis en classe, ma prof me captive et j'écoute et je suis vraiment dans le truc, je prends des notes, tout ça. Mais alors, toute seule, j'ai vraiment du mal à faire des analyses de texte toute seule. Enfin, il me manque cette personne, puis le lien qu'on a avec eux, enfin, c'est nos professeurs, mais en soi, on voit plein de personnes. Et donc, là, c'est aussi un côté qui manque, c'est que on voit personne quand on est confiné chez soi, et c'est un peu dur.
Tu y vois des bons côtés aussi ?
Oui, il y a quand même des bons côtés, c'est qu'on continue de travailler malgré le confinement. Après, je vois aussi un autre bon côté, c'est que dans ma classe, il n'y avait pas beaucoup de solidarité. Et que du coup, là, on s'entraide beaucoup. Ça dépend des personnes, on va dire, mais il y a quelques personnes qui ont formé des groupes Snap ou autres pour se dire, c'est ceux qui veulent bosser, donc on va s'entraider, etc. Donc ça développe aussi d'autres choses, comme l'entraide entre les élèves. Je dirais que c'est ça le bon côté principal.
Qu'est-ce qui te manque le plus ?
C'est de voir mes amis, de voir mon copain. C'est vraiment très difficile de ne plus voir personne. C'est quand même, il manque ce lien. Même mes professeurs me manquent. On voit vraiment plus personne. Alors j'adore ma famille, mais être enfermée tout le temps avec les mêmes personnes, encore, ça fait qu'une semaine. Mais il me manque tous ceux qu'on choisit.
C'était Marie-Lou, lycéenne à Bourg-en-Bresse. De l'autre côté de l'écran ou du téléphone, ce sont les professeurs qui assurent leurs cours. Si le travail est fait de leur côté, ils ont du mal à avoir la main sur leurs élèves qui ne donnent pas toujours de nouvelles. Rémi Arnaud est professeur des écoles à Bourg-en-Bresse. Rémi Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles à Bourg-en-Bresse, à l'école Alphonse Daudet, et vous avez des CM2. Ça fait maintenant 2 semaines que vous êtes professeur depuis chez vous. Alors comment s'organisent vos enseignements ?
Alors j'envoie un mail par semaine avec un plan de travail hebdomadaire. Le vendredi, j'envoie surtout les corrections. Durant la semaine, les élèves m'envoient un mail avec une photo de leur travail que je corrige alors si nécessaire. La boîte mail, en fait, c'est vraiment l'outil indispensable. Je donne principalement des maths et du français en révision. J'évite les nouvelles notions. Quelques questions de réflexion en histoire, en littérature. On a commencé, par exemple, l'étude de Cosette de Victor Hugo juste avant et ça aurait été dommage quand même d'arrêter.
Quels exercices donnez-vous à vos élèves ?
Je donne des exercices relativement courts, mais qui demandent quand même de la réflexion. Je propose pas de nouvelles formes d'exercices. Il s'agit de travaux semblables à ce qu'on a déjà pu faire en classe. Depuis cette semaine, je propose aussi des exercices autocorrigés sur un site internet.
Est-ce que vous faites des évaluations ?
Je ne fais pas d'évaluation formelle. Par contre, je m'assure que les élèves comprennent et maîtrisent les notions que l'on revoit ensemble à distance. Certains m'envoient par exemple des mails pour des exercices qui ne sont pas compris et je leur explique par mail, ce qui du coup n'est pas toujours facile. Mais en aucun cas, je mets des notes et en aucun cas, il y a des choses qui compteront sur le bulletin.
Avez-vous eu des contacts avec les parents ?
Alors oui, j'ai quelques contacts avec les parents, avec les élèves forcément, par mail. Et il y a des élèves que j'arrive pas à joindre par mail, donc je les appelle par téléphone pour m'assurer surtout que tout est bien reçu. Encore ce matin, j'ai reçu quelques messages par email et puis du coup, j'ai contacté quelques parents d'élèves par téléphone pour savoir s'ils avaient bien reçu les mails. Voilà. J'essaye de m'assurer qu'ils travaillent régulièrement selon les moyens qui sont mis à leur disposition.
Savez-vous si tous vos élèves travaillent et suivent vos cours ?
On va dire que je sais que les élèves qui me donnent régulièrement des nouvelles travaillent bien, mais pour d'autres, il reste malheureusement des zones blanches. Très honnêtement, pour beaucoup, la difficulté, c'est la motivation. Une grande partie du travail de l'enseignant, c'est quand même d'actionner des leviers qui sont liés à la motivation. Je dirais que dans ma classe, 30% du temps en général est consacré à mobiliser les élèves dans les apprentissages. On sait que la motivation scolaire est souvent liée à d'autres facteurs extérieurs. Donc motiver un élève à distance, c'est quand même très difficile quand on peine déjà à le motiver dans la salle de classe. Surtout quand la tâche scolaire est effectuée, ça a encore moins de sens parce qu'on est chez soi, tout seul, devant son cahier. Si on ajoute à ça des frères et sœurs qui ont aussi du travail à faire, une télé en fond sonore, ou des conditions de vie peu agréables, faut le dire aussi, logement petit, mal insonorisé, je considère que mes élèves qui travaillent, en fait, c'est des véritables petits héros.
Pour les cours à distance, c'est mieux avec un ordinateur. Est-ce que tous vos élèves en sont équipés ?
Non. J'ai passé un questionnaire le vendredi de l'annonce de la fermeture. La moitié de mes élèves n'a pas d'ordi et quand il y en a un, c'est souvent celui de la famille. Alors j'ai essayé de chercher le dénominateur commun chez tous les élèves, WhatsApp, Messenger. Et en fait, il se trouve que c'est le mail qui est commun à tous les élèves. Enfin, c'est souvent le mail d'un parent. Les élèves, il y en a peut-être un ou deux qui a une adresse mail à soi. Mais ça reste en fait relativement rare. Et non, le mail des parents, c'est ce qui est commun. Du coup, je limite l'usage des sites idéalisés dans les cours du ministère et ça fonctionne très mal sur les réseaux mobiles de toute façon. Non, je reste sur ce qui est faisable avec un smartphone. Donc du coup, c'est souvent le mail.
Pour des élèves de primaire, c'est quoi les inconvénients de cet enseignement à distance ?
Le manque de contact, l'isolement et puis surtout l'impératif de l'écrit, ça accroît encore plus les inégalités scolaires. Quand un élève doit déjà prendre 25 minutes pour lire des consignes, il se retrouve en difficulté. Alors qu'en classe, les consignes, elles peuvent être lues à l'oral, explicitées, répétées, reformulées. Surtout pour mes élèves, ça doit être terrible en fait d'entendre régulièrement à la télé ou à la radio que c'est la classe à la maison. Non, c'est pas la classe à la maison. C'est un peu comme si on prenait un dauphin, qu'on le mettait dans un aquarium avec 3 posters et qu'on lui disait « Voilà, tu as l'océan dans un bocal ». Non, il manque l'interaction, il manque le contact, il manque la motivation. C'est pas de l'école à la maison, c'est un accompagnement scolaire pour pallier une absence d'école.
De votre côté, comment vivez-vous cette situation ?
Moi, je le vis difficilement. Forcément, mon métier, c'est professeur des écoles, ça je sais faire. Mon milieu, c'est la salle de classe, pas mon écran. Et là, c'est dur. L'enseignement à distance, pour moi, ça creuse vraiment les inégalités. Dans la classe, on essaye de les aplanir, ces inégalités. Les élèves ont les mêmes cahiers, les mêmes livres, les mêmes moyens de suivre le cours, c'est-à-dire les yeux, les oreilles, la bouche, se mettre en action. À la maison, chez eux, c'est quand même bien différent. Et je crois que c'est savoir ça qui est le plus embêtant et c'est avec ça que c'est le plus dur de composer.
Pensez-vous tenir sur le long terme ?
Alors oui, forcément, sur la durée, je vais tenir. Déjà parce qu'il y a une attente institutionnelle et puis que je dois fonctionner. Je suis pas en vacances, je dois continuer à faire classe selon les moyens du bord. Bon, par contre, j'ai quelques doutes pour mes élèves. Certains parents saturent déjà et l'expriment dans des mails envoyés. Parents et enseignants, c'est deux métiers bien différents. Quand il y a des frères et sœurs à la maison, les parents, ils deviennent enseignants finalement de 2, 3, 4 élèves de niveaux différents. Donc moi je tiendrai, mais j'ai quand même un doute malgré tout pour mes élèves, même s'ils ce sont des petits héros comme je l'ai dit.
Merci Rémi Arnaud, je rappelle que vous êtes professeur des écoles au groupe scolaire Alphonse Daudet à Bourg-en-Bresse.
Radio B.
Les agriculteurs et les éleveurs de lin continuent aussi de produire nos aliments, mais ils sont parfois boudés par les consommateurs qui préfèrent les grandes surfaces plus pratiques. Et ce qui n'arrange pas leur situation, c'est la fermeture des marchés alimentaires, qui est maintenant devenue la norme. Si les maires font une demande et mettent en place des mesures pour éviter le contact entre les personnes, ils peuvent ouvrir leurs marchés. C'est d'ailleurs le cas pour ceux de Morvel ou Ambérieu-en-Bugey samedi matin qui sont ouverts, sauf si la sécurité des acheteurs n'est pas au rendez-vous. Mais d'autres initiatives sont mises en place pour que les producteurs locaux puissent vendre. La mairie de Bourg-en-Bresse, en lien avec l'agglomération, a lancé un site internet qui répertorie tous les producteurs locaux qui vendent. Il y a leur contact, le lieu où on peut récupérer la commande, qui sera faite par internet ou téléphone au préalable. Et le site, c'est étiquetable.fr, E-T-I-K-T-A-B-L-E. Parmi les producteurs répertoriés, on trouve notamment Terre de Luisandre, qui avait lancé une vente à emporter avant même l'initiative de la ville de Bourg.
Baptiste Doja, vous êtes producteur de légumes à Terre de Luisandre, à Saint-Denis-les-Bourgs. Vous avez un stand sur le marché de Bourg et vous vendez aussi directement chez vous à la ferme. Suite aux mesures liées au confinement, vous avez pris les devants et organisé la vente à la ferme dès le 17 mars. Quelles mesures aviez-vous prises pour les clients ?
Habituellement, effectivement, on vend nos légumes à la ferme le vendredi. Et puis, on vend également des produits d'autres producteurs bio et du coin, des copains, en dépôt-vente. Donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est, vu qu'il faut éviter les milieux confinés où les vents sont les uns à côté des autres, on a sorti notre vente du bâtiment pour la mettre vraiment sur le parking habituel, quoi. Donc, on a une grande cour devant la ferme. Et donc là, on s'est étendu le plus possible pour être à l'air libre et qu'on ait un maximum de place. On avait de la rubalise de partout, des cônes, des plots, des piquets. L'accueil où il fallait que les gens passent pour se laver les mains parce qu'on n'avait pas assez de désinfectant. Donc on a tiré des jets d'eau, des savons liquides et puis il y avait quelqu'un qui lavait les mains de tout le monde sans exception. Le problème de cette organisation, clairement c'est du système D, quoi. On s'adapte au jour le jour. Et là, nous, on pourra pas accueillir les gens s'il y a de la pluie, tout simplement. Donc, du coup, on réfléchit pour la semaine d'après aux autres options qui s'offriront à nous.
Ce serait quoi ces autres options ?
C'est soit déplacer notre vente à la ferme, de faire une vente presque à la ferme, mais un peu plus loin, dans un endroit qui soit un peu plus espacé, où le parking, il y a une possibilité de parking en dur. Voilà, donc là, on est en discussion pour exporter cette vente. L'autre option, qui est de plus en plus prise un petit peu de partout, c'est une vente par Internet, quoi. Donc, en fait, tous les produits qu'on trouvait habituellement sur notre vente à la ferme à Luisandre, donc des légumes, nos légumes, nos conserves de légumes, les tisanes, mais aussi les fruits qui viennent du GAEC des Vergers, les fromages de Laurent Éclair, les œufs de Bastien et Karine Ostry, le pain de Martine et Christian, enfin, etc. Tous les autres produits qu'on a, les pâtes de Nico, l'idée, ça serait peut-être, mais on y réfléchit, on ne sait pas, mais de les proposer sur une commande sur Internet. Les gens font leur commande, et puis nous, on prépare le panier, et les gens viennent le récupérer à un endroit et à un moment qu'on aura défini, ce qui permettrait de donner des moments de rendez-vous que tout le monde n'arrive pas en même temps, donc beaucoup plus facile à gérer, et puis de faire les commandes au préalable, voilà.
Justement, on entend beaucoup d'inquiétudes du côté des agriculteurs concernant la situation. Qu'en est-il de votre côté ? Comment ça se passe ?
C'est pas la meilleure des situations. On essaye quand même toujours de se rappeler pourquoi on est dans cette situation. Enfin, il n'y a pas un gouvernement qui veut du mal aux agriculteurs, c'est juste que tout doit être fait pour endiguer un maximum ce virus. Et en premier lieu, nous, s'il y a une chose qu'on n'a pas envie, c'est de le fauper, quoi. Parce que autant vendre moins, c'est très compliqué, produire plus du tout parce qu'on est malade, là, ça va vraiment devenir complexe. Parce que pour nous, maraîchers, cette période-là, elle est cruciale, c'est là où on met tout en place, quoi. Là, on va commencer à planter un petit peu tout, donc faut qu'on soit le plus en forme possible, donc faut surtout pas qu'on fasse cette merde.
Vous l'avez dit, là on arrive dans une période charnière pour les agriculteurs. Le ministre de l'Agriculture a lancé un appel pour que les personnes sans activité à cause du coronavirus aillent aider les agriculteurs. Vous en pensez quoi ?
En fait, j'en pense que ça met surtout en exergue le fait qu'une grosse partie de la main-d'œuvre salariée agricole est d'origine étrangère, ce qui moi me pose évidemment aucun souci, mais on voit qu'il y a pas mal de gens qui débarquent là-dessus. Le gros problème, c'est pour les grosses exploitations. En gros, c'est les choux-fleurs en Bretagne, les radis dans le Val-de-Saône, les salades, etc., où les exploitants agricoles ont du mal à trouver de la main-d'œuvre locale parce que personne veut travailler en agriculture. Après, nous, sur les petites structures, le besoin, il est pas là. Après, s'il y en a qui se découvrent des vocations pour l'agriculture pendant cette période de coronavirus, bah tant mieux. Le but, ça va être de se dire, avant la prochaine pandémie, je deviens agriculteur. Et là, tout le monde devra se mettre en route pour que, à la fin de ce virus, il y en ait plein qui viennent s'installer, parce qu'on a besoin d'agriculteurs.
Finalement, on parle de réforme du système de santé. Il faudrait peut-être aussi penser à la réforme du système agricole en parallèle.
Bah bien sûr. Je pense que là, on est dans le dur par rapport au coronavirus et là, on essaye tous de faire ce qu'on peut pour survivre et par rapport à ça et dans nos exploitations et nos entreprises, parce qu'il n'y a pas que l'agriculture. Mais je pense qu'il y a des vraies questions de fond qui se posent. La question de la résilience alimentaire, on a 2% d'autonomie alimentaire. Enfin, on parle des petits producteurs, mais c'est pas nous qui nourrissons le plus gros de Bourg-en-Bresse, hein. Faut pas être naïf là-dessus. Pour autant, on a besoin de survivre parce que il faut beaucoup plus de petits producteurs comme nous pour développer la question, cette histoire de résilience alimentaire, de la capacité des territoires à absorber des chocs. Là, cette fois, c'est une pandémie, mais peut-être que le prochain coup, ça sera une augmentation du prix du pétrole ou je sais pas quoi, enfin d'autres choses de ce genre. Et nos systèmes sont pas du tout adaptés. Nos systèmes hyper mondialisés, d'un point de vue notamment alimentaire, rendent nos systèmes très efficaces, mais hyper fragiles. Et je pense que toutes ces questions-là devront se poser une fois que les choses se seront calmées.
Baptiste Doja, je rappelle que vous êtes producteur de légumes à Terre de Luisandre à Saint-Denis-les-Bourgs. Merci.
Merci.
Terre de Luisandre est à retrouver désormais uniquement sur Internet, avec un système de commande en ligne, et il faudra aller chercher sa commande à la ferme à un horaire bien précis. Leur site internet, maboutiquefermière.fr/terre-de-luisandre. Sur Facebook, des groupes recensent aussi des producteurs, c'est le cas des Petites Moulas, un groupe lancé pendant le confinement.
David Barraud, vous avez lancé la page Facebook Les Petites Moulas. C'est quoi l'idée ?
Ben, au départ, en fait, ça s'est fait tout simplement parce que au moment du confinement, je me suis demandé où est-ce que je pouvais aller faire mes courses ailleurs que dans les grands supermarchés. Donc, j'ai mis une annonce sur mon mur sur Facebook et j'ai eu pas mal de réponses diverses et variées. Et je me suis juste dit que ça pouvait profiter à tout le monde et j'ai créé ce groupe les Petites Moulas. En fait, j'ai fait ça en réaction parce qu'on avait l'impression qu'on pouvait aller faire ses courses que dans les grands supermarchés. Et pour moi, les grands supermarchés, c'est les grosses moulas. Les grosses moulas, c'est les gros du business, on va dire, dans le jargon un peu urbain. Et les petites moulas, c'est en réaction à ça, pour justement aussi que les petits producteurs et les petits commerçants puissent avoir aussi une activité.
Et aujourd'hui, combien de producteurs répertoriés à peu près et qui sont ces producteurs ?
Alors, je sais pas, je tiens pas une liste exacte. Il y en a, moi, j'avais limité sur le groupe à Bourg et agglomération. Tout le monde peut alimenter le groupe avec des bons plans, en mettant bien les noms et les coordonnées des producteurs pour pouvoir les joindre avant, pour voir si ils ont des choses et puis aussi pour respecter les règles en vigueur, on va dire.
Le groupe Facebook Produits Fermiers de l'Ain vous permet aussi de localiser tous les producteurs à proximité de chez vous dans le département. Un autre site, l'ADEAR, l'Association de Développement de l'Emploi Agricole et Rural de l'Ain, où de nombreuses initiatives sont recensées. À vous les Burgiens, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Tous les jours, retrouvez nos carnets de bord radiophoniques du confinement sur radio-b.fr, rubrique info. Restez chez vous et écoutez-nous sur le 90FM.
Je crois que Bourg-en-Bresse, depuis maintenant quelques années, est en mouvement.
Des personnes qui arrivent d'Afrique, des personnes qui arrivent des Balkans. Et ce qu'on cherche, c'est l'universalité des droits.
J'ai toujours baigné dans un milieu plutôt manuel. J'aime bien le travail de la matière, ça c'est sûr.
Des hommes, des femmes d'horizons divers.
On voit autre chose, les jeunes, on les découvre autrement.
C'est marqué.
Bah, un peu ras-le-bol de ce système qui nous oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup.
C'est également demander moins d'élèves par classe.
Mais c'est en côtoyant justement différents maires qu'on apprend ça.